François Bernard.
C'est pas du vent, deuxième partie. Nous retrouvons dans 20 minutes la chronique environnement et technologie de Dominique Dezonnet. Mais pour l'instant, direction Porto Novo, au Bénin, pour visiter la ferme école Shanghai, qui forme des agriculteurs à l'élevage, à la culture et à la pisciculture bio. Les élèves agriculteurs maîtrisent tout le cycle, ils produisent, transforment, commercialisent leurs produits. Ils fabriquent eux-mêmes aussi les machines en recyclant des métaux. Ce reportage a déjà été diffusé le 13 avril dernier. C'est la raison pour laquelle vous entendrez tout à l'heure la voix d'Anne-Cécile Bras qui interroge Amélie Niard. Amélie Niard qui signe ce reportage et elle a été, vous allez l'entendre, très impressionnée de rencontrer le père Mzamouyo. Il est le fondateur de l'établissement. Il lui explique les raisons qui l'ont poussé à la création de cette ferme-école.
Comme on sait, j'étais le plus jeune professeur d'électronique à l'Université de Californie. J'avais fait biochimie, microbiologie. J'ai dit, pourquoi je suis dans un grand laboratoire en Amérique et mon origine, là, ça m'a troublé. Donc, je suis revenu. J'ai dit, la solution, c'est que les Africains utilisent ce que Dieu les a donné pour créer un système de production qui convient. Donc, j'ai créé le système intégré. Personne ne croyait à ça. 12 mois sur 12 mois, on peut produire. Donc, dans le système, rien ne se perd. Il y a des tonnes d'asticots. On appelle hôtel Sheraton. Vous allez visiter ça. On appelle ça hôtel Sheraton. De là-bas, tous les déchets des animaux sont là-bas. Ça attire toutes les mouches. Les mouches sont là-bas. Ils travaillent les dimanches, les jours de fête et Noël. Ils ne font pas la grève. Ah, ils sont contents.
Ils font que prendre seulement les asticots.
L'asticot. Ouais. On prend l'asticot, on donne ça aux poissons et tout ça. Parce que l'asticot, c'est 60% protéines, tous les acides aminés indispensables dedans. Donc voilà ça.
Ça nourrit bien les poissons.
Ça nourrit bien. Donc c'est ça. Donc son gars, c'est regarder la capitale environnementale de l'Afrique, la chaleur, les mouches, les insectes, au lieu de se plaindre. C'est ça notre problème. Regardez ce que Dieu nous a donné. Le soleil, la chaleur, les mouches et tout cela. L'utiliser dans le système. Donc c'est un capital environnemental qu'on utilisait pour créer la richesse. On appelle ça « waste to wealth hein? ». Des déchets à la richesse.
Troisième pied mondial.
C'est ça que vous pouvez manger là. Regardez. Faut donner. Prenez la nourriture là. Regardez ici. Donc voilà ici. Ouais. C'est encore les choses qu'on a fabriquées avec nos machines. À partir de déchets, on a fait des granulés. Donc les poissons vont le prendre. Regardez.
Il y a plusieurs espèces,
tilapia et poisson chat. Pourquoi? C'est pour encore canaliser, exploiter les possibilités dans l'eau. Si vous allez de l'autre côté, il va vous montrer ça. Le temps là-bas au fond, c'est un peu vert. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a que de poissons chats. Et les poissons chats avec les déchets produisent beaucoup des algues. Et les tilapias vont manger les algues. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tilapias là-bas, il y a beaucoup d'algues. Donc ici, on appelle ça different life cycle. Donc il y en a qui prennent les algues, il y en a qui ne prennent pas. Donc c'est les complémentarités. Au lieu à quelle la compétition, pour que ça marche, on appelle ça biomimicry. On imite la nature. Donc voilà, regarde les poissons tilapia. Les poissons chats sont partis parce que les poissons chats mangent le gros. Maintenant, les tilapia sont en train de racler les algues qui se forment. C'est les poissons de pauvres. On appelle ça les poissons de Saint-Pierre, tilapia. Qu'on a dit que la pêche miraculeuse, c'est les tilapia. C'est ça.
C'est le poisson du pauvre, mais c'est aussi un poisson qui était apprécié par les pharaons et les rois de l'Antiquité. Alors la base du système Shanghai, Amélie, c'est tout simplement la loi popularisée par le scientifique Lavoisier. Hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais le succès de Shanghai, ça repose aussi sur la personnalité du père Godefroy Nzamouyo qui s'est battu pour développer son système de production biologique. Et on a entendu sa détermination.
Oui, puisqu'au début, personne n'y croyait. Je pense même que certains ont dû le prendre pour un excentrique, puisque c'est quand même donc un prêtre, physicien et biologiste, professeur à l'université. université aux États-Unis qui abandonne son poste pour créer une ONG de développement agricole en Afrique. Donc déjà, c'est pas très commun. Mais en plus, il arrive plein d'enthousiasme, plein d'optimisme, en disant qu'on n'a pas du tout besoin d'utiliser des engrais chimiques, alors que les terres africaines sont réputées infertiles et qu'à cette époque, l'agriculture bio, elle n'est pas du tout à la
85,
mode.
Hein.
Voilà, on n'en entend pas vraiment beaucoup parler. Alors aujourd'hui, évidemment, on ne prend plus du tout pour un fou ou un idéaliste, parce que les chiffres parlent pour lui. Les rendements agricoles et animaliers de Songhai sont excellents et l'ensemble du réseau affiche aujourd'hui une croissance économique de 10% par an. Ils n'ont pas du tout été touchés par la crise alimentaire ni économique.
Alors la grande force de ce système de production intégrée, c'est qu'il permet justement de diversifier au maximum les activités de la ferme qui produit même sa propre énergie, ce qu'on appelle le biogaz.
Oui, ils ont même tellement d'activités qu'on s'y perd un petit peu. Donc pour que le visiteur puisse avoir une vue d'ensemble du système Songhai, à l'entrée de la ferme, il y a un grand panneau avec un schéma qui résume le cycle de production. Deux guides de Songhai, Mohamed Chala et Amour Alogosu, nous expliquent ce schéma.
Vous voyez, nous avons le système intégré Songhai. La production végétale alimente la production animale. La production animale alimente la pisciculture. Et issue de cette synergie, nous avions le biogaz. Donc nous recueillons des déchets issus de la production animale et puis des verdures pour obtenir le biogaz. Donc nous avons la production primaire qui est l'agriculture, la production secondaire qui est la transformation, la production tertiaire qui est le commerce et l'écoulement du marché. Donc tout cela fait allusion à la formation, à l'administration et à tout ce qui est staff technique de la maison. Voilà. Donc voilà le scénario du biogaz. Nous avions de l'eau, de la gacine d'eau et puis de la fiente, des déchets issus des animaux. Donc le mélange se fait ici d'abord, le mélange est tellement homogène et puis on envoie ça dans le digesteur. Donc 24 heures après, dans le digesteur, nous obtenons le gaz. Nous obtenons aussi l'effluent. Donc l'effluent qui est encore un fertilisant qui fertilise naturellement le sol.
Ce que nous produisons, c'est bio, sans additifs, sans conservants. Ici, au centre Songhai, nous n'utilisons pas l'engrais chimique. C'est l'engrais naturel que nous utilisons, c'est-à-dire les fientes des animaux, le reste de la décomposition du biogaz sont utilisés. Ça nous sert surtout à faire du compostage. Et c'est ça qui permet maintenant de fertiliser le jardin. Tout ce qui est produit sont transformés sur place et vendus également aussi. Il y a le magasin de vente qui est à côté, mais en dehors, dans le pays, nous avons encore d'autres magasins à Cotonou, à Calavi. Et en dehors de ce centre, nous avons encore 3 sous-centres au Bénin.
En fait, l'idée centrale du système, Amélie, c'est l'autonomie, hein, c'est d'être indépendant du monde extérieur pour maîtriser ses propres coûts de production et garantir la stabilité de ses revenus.
C'est exactement ça, puisque les fermes Songhai ne dépendent plus du prix des intrants, c'est-à-dire les engrais, les autres activateurs de croissance pour les plantes, ni du prix des nourritures animales, puisqu'elles sont fabriquées à partir de la production végétale de la ferme. Aucun déchet n'est négligé, tout est pensé pour coûter le moins cher possible. Dans chaque bâtiment qu'on visite, dans chaque parcelle qu'on regarde, on voit à chaque fois cette même logique faite d'une multitude de recettes à la fois toutes simples et très ingénieuses et qui ont maintenant fait leurs preuves.
Enfin, il doit bien y avoir un petit défaut quelque part, vous n'avez pas trouvé un tas de déchets, non ?
Ben non, sans vouloir faire de mauvais esprit, c'est vrai que ça a l'air tellement parfait qu'on finit par la chercher, la petite bête. Mmh. Mais même le tas de vieilles boîtes de conserve au bord du chemin n'était pas là par hasard.
Visite guidée de Songhai Porto Novo, la ferme modèle avec Amour Alogosu.
C'est là que nous faisons le levage des olacodes. Bon, les olacodes sont des animaux sauvages qu'on a domptés. Souvent, les gens les confondent avec les agoutis. Les agoutis, on ne les retrouve pas en Afrique. C'est en Amérique latine qu'on retrouve maintenant les agoutis. Ils ont pratiquement les mêmes caractères. La particularité est que l'agouti a ses deux dernières places plus développées que celle des olacodes. Et l'agouti peut se tenir sur ses deux dernières pattes. Ça, c'est les olacodes que nous avons.
Et ça se mange ?
Et ça se mange également.
Ah, mais c'est de la bonne viande. Hein.
Et ça, c'est les agoutis. Oui. Pour les nourrir, nous les donnons du pénicétum. Donc c'est ça que vous voyez comme la canne à sucre. Mais comme ce sont des rongeurs, nous les donnons aussi les tiges du maïs fraîches également. Voilà. En plus de ça, nous les fabriquons de la pavane en tenant compte des éléments nutritifs Donc ils ont besoin pour la poisson. Ah. Donc ici c'est la reproduction, nous avons l'engraissement de l'autre côté. Là nous faisons le décorticage du riz. Le riz que nous produisons, c'est le Nerica, et New Rice for Africa. Dans cette variété de riz, déjà à 3 mois et demi, vous pouvez le récolter. Mais quand nous prenons le riz, ici, nous faisons le riz étuvé. Il faut laver d'abord dans l'eau, puis après, et tremper maintenant dans l'eau chaude pendant 2 à 3 jours. Une fois qu'il y a trempé dans l'eau, les coques libèrent les éléments nutritifs que le riz blanc absorbe. Une fois déjà absorbé, nous faisons la pré-cuisson à la vapeur. Une fois la pré-cuisson est faite, on les fait sécher. Quand c'est devenu sec, il y a des machines qui sont à l'intérieur, c'est décortiqué par ces machines que vous voyez. Une fois qu'il y a décortiqué, ça donne la couleur jaune que nous appelons le riz étuvé ou bien le riz complet, qui est plus nutritif que le riz blanc. Et ici encore, vous voyez, on a introduit la patate douce. Cette patate douce, ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Et là, ça garde aussi plus de l'humidité. C'est juste pour dire que même si vous mettez les orangers, vous pouvez encore valoriser, réutiliser encore la terre.
Sur une petite surface, faire pousser le maximum
de choses.
Vous
pouvez faire beaucoup de choses également à la fois.
Et ça, c'est quoi? C'est la décharge?
Bon, ici, ça, c'est... Là, on fait le tri des déchets. Les bâtons de conserve et autres sont réutilisés au niveau de la fonderie qui permet maintenant de fabriquer les poulies que nous utilisons à l'atelier mécanique, les brûlés à gaz, les marmites et autres.
Vous fonctionnez de manière complètement autonome?
Autonome, oui. Bon, là, c'est, nous sommes au niveau de l'atelier mécanique où nous fabriquons des machines agricoles que nous utilisons, que nous vendons, que nous exportons également. Donc tout ce que vous voyez, c'est construit ici, mais sauf le moteur. Donc ça, c'est un fuseur qui sert à préparer les noix à partir déjà de la vapeur. Une fois les noix de pain sont préparées, donc voilà la presse de camin qui permet maintenant de presser maintenant les noix. Une fois que vous pressez les noix, vous avez l'huile. Là, ça, c'est le clarificateur qui permet de faire chauffer l'huile pour enlever les déchets également aussi.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, Amélie, ce sont des morceaux choisis hein, de la visite parce que la ferme Songueil de Porto-Novo élève de nombreux autres animaux, des olacotes qui sont de gros rongeurs, mais aussi des pintades, des cochons, des oies, des canards, des escargots, enfin toute une série d'animaux.
Oui, alors par contre, au niveau des activités agricoles à Porto-Novo, elles sont relativement restreintes, faute d'espace. La ferme ne fait que 15 hectares, donc ça se limite à la production de champignons et de quelques cultures vivrières. Et la majorité de la production végétale de Songueil est concentrée sur les autres sites qui sont dans des zones rurales et qui sont donc beaucoup plus étendues que la ferme de Porto-Novo. Par exemple, on a 300 hectares à Savalou, au centre, ou 240 hectares à Atagara, près de Parakou, au nord du pays. Les fermes Songueil fonctionnent toutes en réseau, en coopérative, ce qui permet, là encore, de réduire les coûts, et notamment ceux de la transformation des produits.
Oui, parce que les produits de Songueil sont vendus au détail pour les particuliers, mais aussi en gros, hein, sur le marché local. Elles sont même exportées. Est-ce qu'on en trouve en Europe, par exemple?
Oui, j'ai vu des dizaines de caisses de sirop de mangue et de gingembre. Celles-là, elles partaient pour la Libye, mais Songueil exporte aussi en Afrique de l'Ouest, vers la France ou encore vers le Canada. Les fermes Songueil vendent avant tout des produits alimentaires, donc des viandes, des légumes frais, des yaourts, du lait de soja, des confitures, des gâteaux, etc. Mais aussi de l'artisanat, par exemple des tapis fabriqués avec les fibres de coco. Donc c'est encore une idée pour réutiliser les déchets.
Alors vous parliez des rendements tout à l'heure, on a compris que c'est l'obsession, il faut que ce soit rentable. Alors j'aimerais qu'on revienne sur le Nerica, a New Rice for Africa, le riz qui est cultivé à Songueil. C'est quel type de riz?
Alors en fait c'est un croisement d'espèces asiatiques et africaines de riz avec lequel on obtient des rendements deux fois meilleurs qu'avec les variétés africaines traditionnelles. Mmh. À Songueil, par exemple, le père Nzamouyo revendique une production annuelle de 15 tonnes par hectare,
ce qui
est assez énorme. Mmh. Et en plus, cette variété de riz n'a pas besoin d'irrigation, donc c'est vraiment un gros avantage dans une région comme l'Afrique de l'Ouest. Et justement, la gestion de l'eau, c'est une question centrale pour les agriculteurs africains en général. Là encore, le système Songueil a réponse à tout. C'est quoi cette eau qui coule là?
Ça, c'est l'eau du puits. À l'intérieur, nous avons la pompe solaire.
Ouais, regardez.
Donc, c'est à partir des panneaux solaires qui fait tourner la pompe. Maintenant, la pompe pompe de l'eau maintenant dans le château.
Là, c'est le système d'épuration verte. Mmh. Le bâtiment que vous voyez, c'est la douche et le WC, tout combiné. Ouais. L'eau issue de la douche et du WC sont purifiées par les jacinthes d'eau. Mmh, puisque les jacinthes d'eau se nourrissent les déchets nutritifs qui sont dans l'eau. L'eau purifiée vient ici. Et c'est ça qui nous sait maintenant faire le levage du poisson.
Voilà les jacinthes d'eau qui a purifié l'eau là, que vous diabolisez au Burkina Faso.
Oui.
C'est, on mélange avec les fientes de poule et de porc et même les êtres humains pour donner la ratio carbone-azote. Mm-hmm. C'est qui produit tous les gaz maintenant. Voilà ici.
Non.
Demain, ça devient l'engrais que vous avez vu. Digéré par les bactéries. Et le gaz
est récupéré comment?
Le gaz est récupéré ici.
Ouais. Pour les préparer.
Il va vous montrer, il va vous allumer le gaz. Regardez, petit biogaz ici. Regardez, même chose. Voilà, voilà la même chose. Le déchet. Voilà l'engrais.
Il veut allumer le gaz pour nous montrer.
Ok, faut chercher.
C'est pour ça vous posez. Pour la cuisson.
Ok. Regarde ça, mon frère.
Non, c'est le gaz produit ici.
Ici, là. Regarde ça.
Alors que je suis obligé de sortir près de 10 000 francs.
Comment ça, c'est
dans 2 semaines à la maison.
Si tu sais faire la toilette, tu peux avoir le gaz. C'est quand j'ai dit là-bas, l'autre côté à l'entrée, là. J'ai dit, le temps avant de partir, il faut aller à la toilette pour nous là-bas.
Mais tu vois, j'achète d'eau. Chaque matin, il y a un camion chez nous qui passe, il ramasse.
Exactement.
Et tu vas jeter.
Jeter la richesse.
On jette
la richesse. Oui,
effectivement. On parle de l'environnement, mais on n'a pas encore saisi comment on gère ça. Ce qu'on fait, c'est le contraire.
Alors Amélie, on a vu que le système de production de sangaï est basé sur des idées simples, peu coûteuses, mais qui nécessitent quand même l'acquisition d'un certain savoir-faire.
Et c'est pour ça que sangaï est également un centre de formation qui recrute chaque année plus de 150 nouveaux apprentis pour les former à l'entrepreneuriat agricole. Le plus souvent, ce sont des jeunes déscolarisés. C'est justement le cas d'Amour Alogosu. Lui, il est entré à sangaï à la demande de son oncle. Il avait quitté l'école, il savait pas trop quoi faire. Finalement, il n'est pas devenu agriculteur, mais au moins il a trouvé sa voie puisqu'il travaille maintenant comme guide à la ferme de Porto Nouveau.
Ici, au sein de sangaï, c'est la pratique qui est plus dominante que la théorie. C'est-à-dire, vous travaillez vous-même et après, maintenant, vous faites des cours également. Donc, c'est la pratique qui est plus dominante. Et c'est ça qui permet de différencier le centre sangaï des autres centres que nous avons menés. Il y a 9 mois de tronc commun. Là, on fait le levage des olacones, le levage des poulets déchets, le levage des porcs et le biogaz, la pisciculture, et chaque 2 mois, vous changez de session. Ça vous permet aussi de savoir qu'est-ce qu'il fallait choisir comme spécialité. Donc, en fin de compte, j'ai choisi 3 choses, la production animale, la production végétale et l'agro-industrie pour me faire spécialiser les 9 derniers mois. Après les 18 mois, il faut faire 1 an d'application. Et là, maintenant, nous faisons des mémoires et nous soutenons pour avoir un diplôme en entrepreneuriat au bout de 2 ans et demi. Après ce diplôme, les responsables vous demandent maintenant de faire des dossiers d'installation personnels. Quand c'est bon, ils vous prêtent de l'argent. Le centre nous soutient également à ce niveau-là.
Après, vous allez donc voilà, ici. Comme les gens viennent manger, on peut le montrer. On peut faire ça chez eux. Voilà le soja. On sensibilise les gens. Voilà le soja. Et voilà. Vous allez les tarots, les meilleures variétés de tarots. Comme les gens viennent ici, on va dire, hey, je peux faire ça à côté de chez moi. Parce qu'il n'y a rien. Demain, ils vont voir le chou, ils vont voir le maïs. Ça va rentrer dans la tête.
Exactement.
Voilà un reportage d'Amélie Niard à Porto Novo au Bénin, dans la ferme école de Songaï, un reportage réalisé par Alain Bleu.
C'est pas du vent. @rfi.fr.
N'hésitez pas à nous écrire. Il est l'heure de retrouver maintenant une chronique que son créateur Dominique Dezonnet a baptisée Terra Tech. Et elle fait le point des technologies qui se mettent au service de l'environnement et du développement durable. Et nous verrons que les idées ne manquent pas dans ce domaine. Aujourd'hui, on vous invite à vous prendre pour une abeille.
Ah, Bonjour et bienvenue dans TerraTech où nous découvrirons un outil de réalité virtuelle au service de la biodiversité. Tout ce que vous devez savoir sur Bio, le simulateur d'abeilles avec Franck Grison, enseignant-chercheur à l'École supérieure d'informatique électronique automatique de Laval en France.
TerraTech Actu.
En bref.
Des nouvelles de la planète avec notre expert Jean-Paul Hébrard, rédacteur en chef du mensuel Agriculture et Nouvelles Technologies. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Que la lumière soit avec Dial for Light, un nouveau système de commande intégré au téléphone portable qui concerne l'éclairage urbain, Jean-Paul.
Dial for Light permet de rallumer les lampadaires dans la rue depuis son mobile. Il a été mis en place dans la petite commune de Dorentrup en Allemagne et chaque soir il est possible comme ça d'éteindre tous ces lampadaires pour réduire sa facture d'électricité. Alors, pour les couches tard, il suffit d'un clic sur son téléphone pour éclairer sa route momentanément. Le système s'applique déjà à 25 rues et près de 500 personnes se sont déjà dotées de ce système.
TerraTech, l'entretien.
Vous êtes déjà mis dans la peau d'une abeille ?
Ludique, ce jeu sérieux, cet outil virtuel 3D permet de sensibiliser tout un chacun aux problèmes de survie rencontrés par les abeilles.
Bio ou comment butiner un champ virtuel plus vrai que nature ? Franck Grison est enseignant-chercheur de l'École supérieure d'informatique électronique automatique de Laval. Il est aussi responsable du projet.
La problématique au départ, on avait été contacté par le réseau biodiversité pour les abeilles. Ils nous ont soumis la problématique liée aux problèmes d'environnement dans le monde des abeilles. On réunit les différents intervenants, donc même des agriculteurs, pour essayer justement d'avoir les informations au départ et essayer de réfléchir en utilisant les nouvelles technologies, trouver des solutions et proposer aux différents intervenants des solutions ou un jeu dans ce cas-là, qui est aussi un jeu très sérieux qui permet de bien sensibiliser à la biodiversité.
Il est demandé à l'utilisateur un effort particulier.
Ah oui, là il se met directement dans la peau de l'abeille, donc évidemment on l'équipe d'ailes, donc il tient une aile dans chaque main. Il est placé devant un écran où il voit tout l'espace naturel. Et pour se déplacer, il suffit simplement d'agiter les bras de haut en bas. Et plus on agite les bras rapidement et avec un mouvement important, plus on se déplace vite dans le monde virtuel.
Quelles sont les principales difficultés d'une abeille lorsqu'elle quitte la ruche ?
C'est les problèmes de biodiversité. Ce n'est pas forcément les différents produits en priorité, mais plutôt la difficulté pour les abeilles de trouver leur alimentation.
Pourquoi ? Elles sont plus adaptées à leur environnement, en fait, tout simplement ?
C'est l'environnement qui a changé, puisqu'on passe sur des zones qui sont totalement monoculture. Donc évidemment, il y a peu de richesses. D'après des chiffres, il suffit simplement de modifier 0,5% de la surface pour corriger ce problème. Là, avec Bio, on a fait 3 applications. On peut se mettre dans la peau de l'abeille, on peut être l'agriculteur et on peut être l'apiculteur. Et on fait réagir et interagir les 3 acteurs. À travers ces 3 actions, il y a des interactions sur chaque application et l'abeille peut voir ce que fait l'agriculteur, l'apiculteur peut voir l'état de santé de ses abeilles.
En quoi cette réalité virtuelle mise en application peut aider à la sauvegarde de l'environnement ?
La réalité virtuelle permet justement d'apporter de nouveaux indicateurs. C'est vrai que l'objectif n'était pas forcément de simuler et de créer un modèle qui soit 100% exact. Puisque pour simuler un modèle 100% exact, il faudrait aussi simuler tous les phénomènes climatiques, toutes les incidences, tous les produits. Il faudrait des années et voir le modèle ne serait jamais exact dans tous les cas. Avec la réalité virtuelle, l'objectif c'est plutôt d'essayer de présenter les choses sous une forme un petit peu différente et de pouvoir observer des choses qui ne seraient pas possibles dans la réalité. Évidemment, se mettre dans la peau d'une abeille, c'est quand même assez compliqué.
Combien de projets similaires dans le laboratoire de réalité virtuelle de Laval ?
Là, ce projet-là est un projet étudiant que j'ai encadré. On a un premier projet qui est un projet européen, qui est sur le traitement des phobies, pour apporter à des médecins des solutions de traitement de phobies. On est aussi impliqué dans un autre projet qui est aidé par l'Agence nationale de la recherche. Et là, on travaille pour simplifier et éviter des déplacements lorsque des personnes veulent faire une revue autour d'une maquette numérique 3D. Donc, c'est les problématiques de pouvoir à distance interagir à plusieurs sur une maquette numérique, par exemple, de faire des réunions et comment les personnes se voient et quelles actions elles peuvent faire.
TerraTech, c'est du tonnerre. Alors retrouvez toutes ces infos en ligne sur www.rfi.fr ou encore www.tvagri.info. Et si vous avez des suggestions, des questions, vous pouvez nous écrire à terratech@rfi.fr.
Merci à Dominique Dezonnet et à ses invités. Pour plus d'infos sur BIO, eh bien rendez-vous sur esiea.fr. C'est le site de l'École supérieure d'informatique électronique automatique. C'est à Laval. Dans TerraTech, demain, des systèmes GPS qui sont proposés aux agriculteurs et qui permettent d'ajuster la trajectoire du tracteur au champ. Voilà, demain notre invité sera Arnaud Apotheker, avec qui nous évoquerons l'actualité bien sûr, mais aussi les OGM, puisqu'il est en charge de ce dossier pour l'organisation écologiste Greenpeace. Notre reportage nous emmènera au Mali, dans la boucle de Baoulé, où Agnès Rougier est allée visiter une immense réserve dont la surveillance est difficile, paraît-il, et la population a décidé d'aider les gardes dans leur travail. Merci à Sophie Janin, à Delphine de Dianous, à Pierre Bompi et à Antonin Dulay qui m'ont aidé à préparer cette émission. Même planète, même heure demain, comme disent mes amis. À demain.